Bonsoir, Joseph Lengankoy, coordonnateur du rassemblement El Kassavoubou, a été désigné ce week-end président du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. En réaction, Vital Kamere, choisi au poste de deuxième vice-président de cette structure, estime que cette mise en place viole l'accord du 31 décembre 2016. Quelle lecture faire de la mise en place du CNSA? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 24 juillet 2017. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Maître César Tembo. Il est cadre du rassemblement dirigé par Olengankoy. Maître Tembo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
David Jolino Makelele, député provincial. Il est aussi porte-parole de l'UNC, parti politique de l'opposition. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Professeur Alphonse Maindo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Professeur Maindo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci, parce que vous êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Félix Changa-Changa de Bukavu au sud Kivu. Je comprends parfaitement le choix fait par la majorité présidentielle en plaçant Joseph Olengankoy à la tête du CNSA. En ce temps précis, là, un peu ne veut pas se faire entourer des gens qui peuvent lui barrer la route dans ses stratagèmes pour s'éterniser au pouvoir. Merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Radio
Okapi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Attendu depuis la signature de l'arrangement particulier, le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, CNSA en sigle, a été mis en place samedi dernier au cours d'une réunion co-présidée par les présidents des deux chambres du Parlement au Palais du Peuple à Kinshasa. À peine avoir été désigné, Joseph Olengankoy, président du parti politique FONUS et président du rassemblement El Kassavoubou, ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique congolaise. Les détails avec vous, Berry Franklin Luchaka.
Le coordonnateur du rassemblement El Kassavoubou, Joseph Olengankoy Mukunji, a été porté à la tête du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre au cours d'une réunion co-présidée par les présidents des deux chambres du Parlement au terme d'un consensus entre les membres de cette institution d'appui à la démocratie. En réaction, la majorité présidentielle accepte le choix porté sur les personnes de Joseph Olengankoy avec comme vice-président Adolphe Lumanu. Dans sa déclaration de dimanche 23 juillet, le porte-parole de la MP explique les raisons de l'acceptation. André Alain Atundu.
Et nous espérons que tout le monde aura suffisamment d'esprit, d'ouverture pour apprécier à sa juste valeur cet acte que nous venons de poser dans le sens de la baisse de tension, dans le sens d'une avancée significative dans l'organisation des élections.
L'UNC de Vital Kamerhe qui prend la deuxième vice-présidence et le MLC qui doit occuper la troisième vice-présidence ont tous récusé le processus de désignation de Joseph Olengankoy et surtout refusé le poste qu'il leur est accordé. Dans son communiqué du samedi dernier, l'UNC fait savoir, je cite, « Cette mise en place est une violation de l'accord de la Saint-Sylvestre qui veut que le bureau du CNSA soit mis en place par consensus entre composantes ayant pris part au dialogue de la CENCO et non par les délégués des composantes au CNSA. » Fin de citation. Quant à elle, la CENCO soutient que la structure qui a conduit à cette désignation n'est pas le fruit d'un large consensus. Abbé Donatien Choli.
Cette structure n'est pas acceptée par l'ensemble des concitoyens et c'est difficile de régler la question de la date d'élection, par exemple, si cette date doit être appréciée unanimement par le CENSA, le gouvernement et la CENI.
Il est prévu que les membres du CENSA se réunissent le plus tôt possible pour compléter certains postes encore vides et travailler sur le règlement d'ordre intérieur de cette institution.
Merci Berry Franklin Luchaka. Maître César Tembo, je rappelle que vous êtes cadre du rassemblement dirigé par Monsieur Joseph Olengankoy. D'abord, comment vous avez accueilli la mise en place du CENSA?
Eh bien, madame, la mise en place du conseil du CENSA répondait à tout ce que les accords ont prévu. La manière dont nous l'avons accueilli, c'est la normalité, parce que nous savions que c'est ça qui devrait être fait. Donc les accords ont été très clairs, l'arrangement particulier a été signé entre les parties, et bien évidemment, après cette session, cette plénière, M. Joseph Olengankoy a été désigné ainsi président du CENSA, en même temps étant donné qu'il est président du Conseil national, du Conseil des sages du Rassemblement.
Alors cette désignation de Joseph Olengankoy à la tête du CENSA ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Vous avez suivi l'UNC, le Front, l'UNC, le Front, le MLC et même la CENCO, la société civile qui dénonce la violation de l'accord du 31 décembre 2016.
Parler de la violation, il faudrait en apporter les preuves parce qu'on ne peut pas balancer les choses comme ça. On se considérerait en réalité comme dans une situation de politique politicienne à la congolaise. Le problème qui se pose, c'est que Monsieur Joseph Olengankoy a été désigné par consensus et tous les délégués qui ont été choisis par les parties prenantes ont assisté à cette réunion. Bien sûr, il y a eu quelques absences, mais au moins chaque composante a délégué quelqu'un qui a assisté à la réunion. Alors quand on parle de violation de l'accord, je crois que le dénominateur commun à tout ceci est le mot consensus. Mais le consensus en réalité c'est quoi ? Le consensus est la tendance générale essentielle. Il y a eu des participants, si un ou deux personnes estiment que sa voix n'a pas été suivie et que ce n'est pas le consensus, parce que pour eux, le consensus, c'est ce qu'ils disent. Là, c'est très désolant.
Alors, pour l'UNC de Vital Kamerhe, cette mise en place est une violation de l'accord de la Saint-Sylvestre qui veut que le bureau du CENSA soit mis en place par consensus entre composants ayant pris part au dialogue de la CENCO et non pas par les délégués des composantes au CENSA.
De toute façon, il y a un problème très clair. Les délégués dont on parle ont été envoyés par qui ? C'est par les composantes, les parties prenantes à ce fameux dialogue de la Saint-Sylvestre. Alors il est quand même difficile à comprendre que vous déléguez quelqu'un et vous sachiez que la plénière devra valider les mandats et tout ça, et le président qui devra être choisi par consensus, on l'a dit dans cet accord d'arrangement particulier, les consensus concernaient qui ? C'étaient les composantes. Mais qui ont été des délégués là-bas ? Ce sont des membres faisant partie de ces composantes, exactement. Alors là, on ne comprend pas ce qui est en train de les piquer.
L'UNC rejette le poste de la vice-présidence. C'est le cas aussi pour le Front. Est-ce que vous ne voyez pas qu'on est parti déjà pour un blocage ?
Madame, bloquer signifie violer les accords. C'est ça, au fait. L'UNC refute ce poste de deuxième vice-président. Je crois que l'arrangement particulier et l'accord global du 31 décembre a très bien signifié qui occupe quel poste. Alors, ils sont en train de renier ce qui s'est passé. Encore, je comprends, c'est une stipulation politique, mais l'essentiel est fait. Les consensus a été trouvé autour de la personne de Joseph Olengankoy.
Et malgré toutes ces réactions au sein de la classe politique, vous pensez que Joseph Olengankoy doit commencer le travail ?
Madame, même Jésus-Christ n'a jamais réussi à avoir l'unanimité. Je vous ai dit tout à l'heure que le consensus, c'est la tendance générale essentielle. Il y a eu combien de composantes au sein des délégués du CENSA, des composantes au sein du CENSA ? Il y en avait 6. Alors si un ou deux estiment que les consensus pour eux, par exemple pour l'UNC, les consensus signifieraient que M. Vital Kamerhe soit choisi comme président du CENSA. Ce n'est pas l'avis général de tout le monde. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une tendance générale essentielle qui signifie les consensus.
Alors il y a des observateurs qui estiment aussi que ce ne sont pas les présidents des deux chambres du Parlement qui devaient diriger ces travaux.
Bon, heureusement que vous avez parlé d'observateurs. Si c'était M. Vital Kamerhe, par exemple, l'ancien président de l'Assemblée nationale qui les dirait, je ne pense pas qu'un homme aussi intelligent que lui puisse dire des choses comme ça. Vous savez, le président du Sénat et de l'Assemblée nationale n'agissait pas en leur propre nom. Ils agissaient au nom d'un homme, le président de la République, qui est une institution. Il a délégué son pouvoir au président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Regardez, vérifiez l'arrangement particulier. tout le monde a signé l'arrangement particulier dans une plénière qui a été présidée par les deux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc c'est très clair, ils étaient en train d'agir par dérogation, par délégation, je voulais dire.
Le rassemblement de l'opposition courant tshisekédiste Barkate de M. Lisanga Bunganga estime aussi que cette désignation n'a pas respecté les consensus. Apparemment, chacun a sa compréhension du mot consensus.
Voilà justement, c'est pour cette raison que je me suis limité à une définition d'ordre général. La tendance essentielle. M. Lisanga Bunganga, bon, je ne vais pas parler des individus, notamment de M. Lisanga, il a son rassemblement en lui, qui n'a pas été pris en compte. Il a négocié l'entrée au gouvernement, dont l'UNC fait aussi partie. Il ne l'a pas négocié au nom du rassemblement Barkate. Il a fait allégeance au rassemblement, qui est dirigé par M. Joseph Olenkankoy. Donc, si M. Lisanga veut aussi faire de la gesticulation, je le comprends. C'est comme ça que nous ont habitués les politiciens congolais.
Mais je ne trouvez pas qu'il y a un problème là, que tout le monde ne soit pas... Que tout le monde ne soit pas finalement d'accord de cette désignation, à part la majorité présidentielle.
Vous êtes une journaliste aguerrie. Je ne sais pas si vous allez me donner, dans le cours de l'histoire, à part l'arrangement, l'accord du 31 décembre, qui a plu à certaines personnes, mais ce n'était pas tout le monde. Il y a des gens qui ont contesté aussi. Dans notre classe politique, tout le monde conteste tout. Surtout si la tête qui doit être là n'est pas le sien.
Merci Maître César Tembo, David Jolino Makelele, député provincial, porte-parole de l'UNC, parti politique de l'opposition. Bonsoir.
Bonsoir madame.
Voilà, l'UNC refuse ou rejette le poste lui attribué au sein du CENSA. Pour quelles raisons?
Madame, nous sommes respectueux de texte. D'abord, il faut revenir à l'essentiel, à ce qui a conduit à cette désignation du président. Au terme de l'arrangement, comme vous le savez, après que la CENCO ait rendu son rapport au président de la République, celui-ci a repris la main, si j'ose dire, et a procédé aux consultations, au terme desquelles il a été désigné un premier ministre, et il restait le président du CENSA et les autres membres du CENSA. Et à la suite de cela, dans l'arrangement particulier, il est prévu que le président soit désigné par consensus. Mais on voit très mal un président dont le parti ou l'identité est déjà connu être désigné également par consensus. Sinon, ce serait automatique, comme nos amis, à juste titre du Rassemblement Limité, l'avaient exigé. Ici, dans l'arrangement particulier, tel n'est pas le cas. Et si vous voulez l'illustration avant que j'arrive aux procédures, c'est qu'il est dit ceci au point à l'article 15. Point 2, il est dit, point 1, il est dit, le président du CENSA assure la coordination de l'ensemble des activités du Conseil et sera assisté des trois vice-présidents. 2, ces postes de vice-président sont confiés respectivement à la majorité présidentielle, à l'opposition politique sénataire de l'accord et au Front pour le respect de la Constitution. Écoutez la suite. Si l'une des composantes citées ci-haut prend le poste de président du CENSA, le poste de vice-président lui réservé sera attribué au rassemblement. Ça veut dire quoi? Que le consensus ne visait pas, comment dirais-je, le poste n'était pas attribué d'office au rassemblement. Donc c'était par consensus que cela devait se faire.
Mais c'est ce qui s'est passé samedi.
Non, alors le consensus, parlons-en. D'abord, la violation. Lorsque il est dit dans l'accord et même dans le règlement particulier, dans l'arrangement particulier, que c'est le président de la République qui assure, j'allais dire, la mise en place du CENSA. Et comment il le fait? En faisant en sorte que les différentes organisations puissent se retrouver. Alors, cela se passe tel que prévu à l'article 13, où il est dit... Le président de la République préside donc la séance de mise en place du CENSA. Et le président de la République, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est pas n'importe qui. C'est lui qui doit rechercher avec les différentes composantes l'oiseau rare, si j'ose dire, qui pourrait convenir à tout le monde par consensus. Lorsque, je tiens à faire un distinguo ici, lorsque nous sommes allés, lorsque l'accord le particulier a été,
l'arrangement particulier
a été signé devant le président du Sénat et le président de l'Assemblée, c'était pour donner une certaine solennité. Et le président a mandaté à cet effet le président. Il n'a pas
mais c'est
présidé.
Le président attendez, qui a attendez, mandaté
attendez.
Aussi.
Mais attendez, la différence elle est énorme. Ici, dans le règlement dans la désignation du président, il est partie prenante au consensus. Le président consulte les présidents, les responsables des composantes. Ce ne sont pas les composantes les délégués, sinon c'est la loi majoritaire qui l'emporterait. La majorité présidentielle devait avoir 9 membres. L'opposition, Rassemblement, elle, Kassavubu, 6 membres. À eux tout seuls, ils ont déjà plus de la moitié. Donc il suffit qu'ils se mettent d'accord et leur candidat passe. Mais telle n'a pas été la volonté de ceux qui ont fait cet accord.
Mais
puisque...
si c'était Vital Kamerhe qui avait été désigné président, vous auriez eu la même réaction?
Non, attendez, nous aurions eu la même réaction. Pourquoi? Parce que dans l'accord, le règlement, l'arrangement particulier tel qu'il a été finalisé, a prévu cette possibilité de désigner quelqu'un d'autre qu'un membre du Rassemblement. Et le consensus, je le dis ici, devait être trouvé entre les différentes composantes. Troisièmement, il faut le savoir, nous, notre composante de l'opposition politique à la cité de l'EUA, toute tendance confondue, tout membre éminent confondu, a proposé au chef de l'État le nom de Vital Kamerhe. Ce n'est pas Vital Kamerhe, ce n'est pas l'UNC, c'est la composante. Mais il appartenait au président de la République, lors de la réunion avec les responsables, les chefs des délégations, de voir quelle est la personnalité qui correspondait le mieux à cette fonction. Mais surtout, il faut le savoir, nous, de l'UNC, nous ne sommes pas... Nous avons déjà in tempore non suspecto, madame, récusé la procédure initiée qui consistait à faire dégager le consensus par le président de l'Assemblée et le président du Sénat. Pourquoi? Parce qu'ils sont partie prenante. Le président de l'Assemblée est membre de la majorité présidentielle. Le président du Sénat est membre de l'opposition républicaine qui, eux-mêmes, constituent les composantes à la recherche du consensus. Donc pour nous, et nous l'avons écrit le 3 juillet, madame, en récusant cela. Donc nous n'étions plus tenus par les résultats qui s'en sont suivis.
Donc vous saviez déjà au départ que ce monsieur Olengankok serait désigné.
Non, ça aurait pu être un responsable du MLC, puisque c'est dit dans l'accord, le point 13.2 le dit clairement que ça aurait pu être si, il est dit, si l'une des composantes CIO prend le poste de CENSA, donc les trois composantes, le poste de vice-président lui réservé sera attribué au Rassemblement.
Merci.
Donc, il faut que les choses soient claires là-dessus.
Quel est le professeur Alphonse Maïndo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris et enseignant à l'Université de Kisangani. Quelle est votre lecture, professeur, de la mise en place du CENSA?
Merci beaucoup, madame. Bon, moi, si vous voulez, ma lecture, elle est tout à fait simple, parce que là, on est en fait en train d'assister aux obsèques de l'accord du 31 décembre en trois actes. Donc, le premier acte, c'est le gouvernement de Bruno Tshibala, et le deuxième acte, c'est la signature des arrangements particuliers, et le troisième acte, c'est ce qu'on vient de voir là, la mise en place du CENSA. Donc, avec ça, c'est-à-dire que vraiment le certificat de décès élaboré, quoi, pour constater la mort de cet accord qui est définitivement enterré, à mon avis, puisqu'on s'éloigne de plus en plus de l'objectif qui était fixé par cet accord du 31 décembre, qui était d'organiser des élections dans un contexte politique apaisé, en décrispant la tension politique qu'il y a dans le pays. Alors, mais ceci dit, il convient quand même de noter qu'on est là dans des rapports rapports politiques, qui sont donc des rapports de pouvoir toxiques. On peut négocier un accord avec d'autres partis, ses adversaires politiques, quand on est dans une position de fragilité ou on est fragilisé, alors on peut faire des concessions en attendant de pouvoir refaire ses forces, vous, et de saisir une opportunité qui permette de rebondir et de rejouer les redistribuer les cartes. C'est ce que la majorité présidentielle a pu faire, hein. Donc, elle a montré encore une fois sa capacité à pouvoir faire un jeu politique très 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 fin avec des stratégies et des objectifs bien précis. Et en l'occurrence, il s'agit de garder le pouvoir le plus longtemps possible. Alors maintenant, on peut s'interroger sur sur la durabilité d'un tel processus. Lorsqu'on parle de durabilité, il y a quand même des questions qu'on pourrait se poser. Parce que pour moi, il me semble que l'on doit pouvoir se méfier. C'est comme ce qu'on vit là, c'est comme si on était en train de s'amuser avec un volcan actif, mais qui sommeille. Parce que l'éruption, ça peut venir à tout moment, même quand on s'y attend pas, de manière brutale et brusque, et parfois même violente, ce qui peut emporter tout son passage. Donc il faudrait qu'on ait ça à l'esprit pour pouvoir mieux faire les choses. Et là, on est encore dans les précaires, on n'est pas dans les durables. Et le durable, c'est quoi? Si on doit emprunter aux sciences sociales le concept de durabilité, il y a trois piliers fondamentaux pour la durabilité. Le premier pilier, c'est sur le plan économique, et le deuxième pilier, c'est sur le plan écologique, et le troisième pilier, c'est sur le plan social. Qu'est-ce qu'on dit sur le plan économique? Quand on veut parler de durabilité sur le plan économique, ça signifie qu'il doit y avoir ce que l'on entreprend, doit être vivable, doit être profitable, efficace pour tout le monde. Et donc, ça ne peut pas compromettre la capacité des générations futures à pouvoir satisfaire leurs besoins. Et ici, quand on voit ce qu'on observe aujourd'hui, ça ne permet pas ça. On observe là les conséquences de ça, parce qu'il y a la monnaie qui perd sa valeur tous les jours, il y a l'inflation qui galope. Et donc, on est en train de compromettre, si vous voulez, les ressources. Et sur le plan écologique, je disais la durabilité, c'est quoi? Ça signifie qu'il y a qu'il faut que ce qu'on entreprend soit viable, soit soutenable sur la longue durée, que ça protège le ressource pour les générations futures et tout ça. Et donc qu'il y ait une solidarité qui permet d'assurer une solidarité entre les gens. Et donc quand on regarde notre environnement politique aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une rupture, il y a une fracture sociale entre les élites qui sont aux affaires et l'immense majorité de la population, en particulier des jeunes générations qui se reconnaissent pas, qui terminent les études et qui se retrouvent au chômage. Et là, ce n'est pas fait pour s'améliorer.
Alors,
ça va s'empirer.
Professeur,
en troisième lieu, oui.
Allez-y rapidement.
Oui.
Le
troisième pilier ici, c'est le social. Ici, quand on parle de la durabilité du point de vue social, c'est qu'il y a l'idée d'équité, d'injustice sociale, qui permet ainsi de réaliser une cohésion sociale, en faisant en sorte que tout le monde puisse se retrouver. Or là, quand on voit ce qui se passe là, tout le monde ne se retrouve pas dans ces accords. Si, il y a donc on compromet la cohésion sociale, et donc de ce fait-là, on n'est pas dans la durabilité. Et c'est dommage. On peut
pas
assurer ainsi la pérennité de notre groupe social.
Est-ce que tout le monde doit se retrouver nécessairement?
Non, tout le monde ne peut pas se retrouver nécessairement, mais il faudrait que l'immense majorité des gens se retrouvent. Et qu'il y ait au moins une solidarité grande, quoi. Et ce qui n'est pas le cas en ce moment. Et donc c'est une poignée de gens qui se retrouvent dans ça. Et vous voyez même parmi les signataires de l'accord ou des arrangements particuliers, certains qui se sont pas retrouvés, ils commencent à tirer sur à boulet rouge sur les CENSA. Donc ça montre bien que si vous voulez, comme on dit, les fruits, l'insecte qui détruit les fruits, se trouve dans les haricots même.
Merci professeur Maïndo. Maître César Tembo, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Goma, au Nord Kivu.
Albert Bahati à Goma. Les choix de Olengankoy montrent une fois de plus la mauvaise foi de la MP d'organiser les élections, mais aussi une stratégie de mettre au poste important des opposants faibles en vue de créer une politique de pourrissement. Olengankoy et Tshibala sont ceux-là que la MP est capable de manipuler par rapport à Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. Pour nous, peuple, c'est de non-événement.
Réaction, Maître Tembo.
Voilà, nous sommes en démocratie. Je comprends sa réaction à l'entendre parler. Il doit être certainement membre de l'UDPS Félix Tshisekedi ou de l'UNC. Je ne sais pas quel thermomètre il a pour mesurer la capacité de manipulation de tel ou tel autre homme politique. Monsieur Joseph Olengankoy est connu dans l'histoire de ce pays. On le connaît, quel combat il a fait et quel est son objectif politique et la manière dont il a toujours eu un dévouement concret et clair pour son pays, la République démocratique du Congo, à qui il a dédié toute sa jeunesse d'abord. Donc, pour moi, c'est une réaction d'un partisan, mais qui peut-être ne comprend pas la notion de la lutte politique. Et je me pose la question, qu'est-ce que Olengankoy a à voir avec la majorité? La majorité, c'est un partenaire dans les accords. Alors, qu'est-ce qui serait souhaitable? Que son monsieur...
Les deux présidents de chambre du Parlement ne devraient pas présider la réunion parce
j'ai déjà
que
répondu à cette
l'UNC
question, ça serait...
estime qu'ils sont partie prenante.
Non, écoutez, j'ai répondu à cette question. Le président de la République, parce que monsieur Jolino a parlé tout à l'heure que pour eux, le président de la République devait dégager les consensus. Non, le président ne dégage pas le consensus. Il devrait aider à dégager les consensus. Et c'est ce qu'il a fait par délégation de pouvoir. Il a délégué son pouvoir aux deux présidents, le président du Parlement et le président du Sénat. Alors, quand vous dites qu'il doit dégager le consensus, ça signifie quoi? C'est le président qui décide de qui devient président du CENSA en violation de tout ce qui aura été convenu. Ou bien c'est parce que l'Église catholique a rendu les tabliers et qu'il décide de tout, on aurait encore les mêmes réactions en disant non, le président n'avait pas le droit, il fallait. Et j'insiste sur l'aspect de ce fameux consensus. Il dit qu'il fallait qu'on convoque les présidents des partis, si j'ai bien compris, ou si ce n'est pas ça, les représentants des composantes. Si ce n'est pas ça, les présidents des composantes, les parties prenantes. Mais quand au sein de ça, vous avez envoyé des délégués, ces délégués viennent parler au nom de qui? De la majorité? De M. Olengankoy ou de qui? Chaque composante a envoyé ses délégués pour parler en son nom. C'est ça qui s'est passé. Donc, le président de la République a agi à travers le président du Sénat et du Parlement qui ont aidé à trouver ce fameux consensus dont vous êtes en train d'appeler de tous les vœux. Et je reviens en vous disant, les consensus, quoique n'étant pas une notion quantifiable, est une tendance générale essentielle entre les partis. C'est ça, les consensus.
Et donc, maintenant que le CENSA a été mis en place, comme on le sait bien, c'est une structure qui permettra, conjointement avec le gouvernement et la CENI, d'établir le calendrier électoral. C'est un pas en avant qu'on vient de faire là, Maître Tembo?
Mais bien évidemment. Tout ce que... Vous savez, même... Oui, excusez-moi. Tout à l'heure, Monsieur Jolino Makelele a parlé des élections. En fait... Le CENSA devrait être mis en place avec un objectif bien déterminé. Ce n'est pas pour s'amuser ou des postes. Les missions du CENSA sont connues. Donc, dès l'instant qu'il est installé, c'est un bond en avant pour l'organisation de ces élections que tout le monde appelle de tous ses voeux, y compris M. Olengankoy.
Les élections qu'on n'aura pas à la fin de cette année?
Il faut attendre que le CENSA, le gouvernement, la CENI, après concertation, s'y prononce. Je n'ai pas qualité de me prononcer quant à ce.
Merci, Maître César Tembo. Julino Makelele, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Mbandaka.
C'est Marval Basila qui vous appelle de Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Au centre interdiocésain, M. Vital Kamerhe était le premier à ouvrir la brèche à la majorité présidentielle pour que la lettre de l'accord soit violée en modifiant les droits acquis du véritable RASOP en faveur du nouveau principe de la consensualité. Que la majorité présidentielle, avec ses alliés, se soit désigné leur personnalité consensuelle, n'est-ce pas ça le respect du principe que M. Kamerhe avait lui-même soutenu bec et ongle? Quelle serait sa réaction si sous la même modération de président des deux chambres du Parlement et en son absence, il était désigné président? Quel est l'intérêt du peuple dans sa liste de positionnement?
Jolino Makelele.
Oui, je ne sais pas si je dois commencer par répondre à notre interlocuteur ou à Maître
Tembo. À vous de choisir.
Bon, je commence par Maître Tembo. Je dois d'abord recadrer le débat ici. D'abord, s'agissant du consensus, j'ai bien dit que le président de la République, il est là en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Il lui appartient, garant du respect de la Constitution, il lui appartient à lui. C'est à lui qu'on a donné cette mission-là, de veiller à ce que ce consensus se dégage. Et il n'a pas été dit que ce consensus pouvait être obtenu sous la supervision des personnalités éminentes, soit-elles, qui, par ailleurs, font partie des composantes qui seront aux discussions sur le consensus. C'est biaisé à l'avance. Et d'ailleurs, à ce sujet, je tiens à dire ici, sous la position de l'UNC, que nous avons dit le 3 juillet, s'il vous plaît, in tempore non suspecto, le 3 juillet, nous avons écrit à l'honorable Minaku et à l'honorable Kengo pour leur dire que le procédé auquel ils recouraient n'était pas... La convocation de la plénière du CENSA par les honorables présidents des deux chambres est inopportune. Et nous avons dit par ailleurs que la démarche n'était pas conforme à l'esprit et à la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc le 3 juillet déjà, nous nous écartions de ce procédé qui a abouti, il y a avant-hier, à l'élection de M. Le Ngankoué. Nous n'étions donc pas preneurs depuis cette date-là. Et deuxièmement, nous, lorsqu'on dit nous respecter le consensus, je suis convaincu qu'ils seront en mal de vous produire les PV relatifs au consensus tel qu'il a été dégagé. Ils seront en mal de le faire, ceux auxquels on fait allusion ici, les délégués. Troisièmement, lorsque nous disons il faut respecter l'accord, vous savez, des 28 membres, le CENSA est sur la voie de passer à 34 membres, pratiquement. Et d'autre part, lorsque vous avez le Front pour le refus et pour le respect de la Constitution, donc le MLC et l'UNC, et même des alliés au sein du Rassemblement et Kasavubu, qui refusent, ce sont les deux grandes composantes autres que la composante majorité présidentielle et la majorité Rassemblement, récusent. Mais il faut quand même y trouver une bonne raison. Nous disons ceci. Il faut le savoir. Le CENSA a pour mission d'assurer le contrôle et le suivi du processus électoral.
Mais il faudra qu'on avance quand même.
Ah oui, madame, justement, j'y viens. Vous imaginez, une seule seconde, quel est ce Congolais qui peut imaginer, sans vouloir offenser la personnalité du président Ole Ngankoué, le président du Rassemblement, El Kasavubu Ole Ngankoué, qui va contrôler, si j'ose dire, le premier ministre ou le gouvernement dirigé par le premier ministre toujours du Rassemblement Ole Ngankoué pour s'assurer que le processus, la mise à disposition des fonds se fasse bien, la sécurisation se fasse bien et que s'il y a lieu, éventuellement, proposer des améliorations. On ne le voit pas. Personne n'imagine cela. C'est pour cela que dans la classe politique et même dans l'opinion, tout le monde se dit que c'est foutu d'avance.
Vous avez aussi vos membres dans le gouvernement. Vos membres peuvent dénoncer.
Ah non, oui, mais ça dépend du domaine dans lequel ils sont. Donc ils sont dans un domaine où il est plutôt dans un domaine nonobstant la force de l'UNC. On n'a qu'un seul membre du gouvernement, mais ça c'est un autre débat. L'UNC aura à se prononcer dans les jours à venir sur la fin. Pour ce qui est de notre correspondant à Manaka, je dis tout simplement la politique elle est dynamique. Nous, qui peut ignorer que tous les participants au dialogue de la CENCO, y compris les évêques, l'ont dit. Le président Tshisekedi a été désigné, j'allais intuitu personné, c'est-à-dire parce que c'était lui. On a tenu compte de sa carrure, du fait qu'il était second aux élections, à l'élection présidentielle et qu'il avait une carrure particulière. Mais ce poste, entre nous, personne ne pouvait imaginer que ce fût donné à quelqu'un d'autre. En l'absence, si tant est que cela fût possible, en l'absence du président Tshisekedi, on n'aurait pas imaginé quelqu'un d'autre que ceux qu'on présente actuellement. Non.
Merci, Monsieur Cholino. Professeur Alphonse Maïndo, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Bukavu, au sud de Kivu.
Robert Bahame de Bukavu, au sud de Kivu. Il ne fallait pas s'attendre le moins par rapport à une telle situation. Comme l'on a mis en place le 9 mai 2017, sans consensus politique, le gouvernement Tshibala, c'est pratiquement comme l'on vient de mettre en place le CENSA. cette situation est encore loin de résoudre efficacement les problèmes à la base de la crise politique en RDC pour ainsi conduire cette dernière vers une véritable alternance politique. Je me demande alors à quand on aura la culture ou la notion du respect des accords en RDC.
Réaction, professeur.
Bon, merci bien. Je pense qu'évidemment, ça traduit un peu les désenchantements ou la désillusion de l'immense majorité des Congolais. Hein. Je vous ai demandé comment est-ce que nos hommes politiques seront capables de pouvoir tenir leurs engagements, de respecter la parole donnée. Puisqu'on a vu qu'il y avait il y avait un accord qui avait été signé le 31 décembre. Après, il y a eu beaucoup de tergiversations. On est revenu sur ça. On a fait du rétropédalage. Et il y a des gens qui ont cru bon de pouvoir faire croire que certaines personnalités qui étaient pressenties selon cet accord-là pour occuper des positions n'étaient pas assez consensuelles. Et ils ont essayé de convaincre, notamment de la majorité, convaincre les chefs de l'État de ne pas le prendre. Parce que moi, je me demande bien comment un président qui a été capable de travailler avec des gens aussi difficiles que Jean-Pierre Bemba, Azarias Rouberoua ou Arthur Zahid Ngoma, Père Son Âme, ou Yero Yadjombashi, il a su les gérer. Et comment ne pourrait-il pas faire la même chose avec d'autres qui sont de moindre carrière? Voyez-vous, si je pense à Félix ou à Pierre Lundi, je ne le vois pas de la trempe ou de ce que j'ai cité tout à l'heure là pour pouvoir lui faire hommage. Donc je pense qu'il y a là un vrai souci. Et pour qu'on apprenne à respecter la parole donnée, c'est le peuple qui doit rappeler à ses dirigeants. Je rappelle que dans la Constitution, nous avons donc des outils pour ça. Notamment, il y a la possibilité de faire des pétitions. Il y a, si on réunit un nombre de signatures, je pense dans les 100 000 signatures, on peut demander que telle ou telle personnalité qui occupe une position, en l'occurrence, soit de l'Assemblée ou de l'exécutif, hein, qui ne tient pas sa parole, puisse être relevée par une pétition. Il y a cette possibilité. Donc, il y a le contrôle citoyen qui peut se faire aussi par d'autres mécanismes, par la voix de l'opinion publique et d'autres, etc. Donc il y a plusieurs possibilités. C'est au peuple de rendre responsable, si vous voulez, redevable, c'est le propre mot que je voulais, redevable ces élites. Autrement, ça ne changera pas, puisque les gens ils sont dans une logique de ce qu'on appelle la logique alimentaire ou la politique du ventre, selon Jean-François Bayard, c'est d'essayer à chaque fois de chercher à remplir son ventre, à gagner de l'argent pour soi-même en oubliant l'intérêt général, en sacrifiant l'intérêt de la nation et en compromettant les vivre ensemble. C'est ce qu'on observe.
Professeur, le CNS a pour mission de veiller au respect de l'accord de la Saint-Sylvestre, accord politique, et d'assurer le suivi ainsi que l'évaluation de la mise en œuvre de cet accord en vue de garantir l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées. Maintenant qu'on a le CNS, plusieurs fois les politiques ont réclamé à la CENI de publier les calendriers électoraux. Maintenant qu'on a le CNS, on voit que les choses peuvent aller un peu plus vite.
Bah non, au contraire, les choses n'iront pas plus vite. Vous avez suivi le président de la CENI qui a dit qu'il était dans l'impossibilité d'organiser les élections avant le 31 décembre, alors qu'il n'est pas habilité à le faire. C'est déjà une préfiguration de ce qui nous attend. Et en deuxième lieu, ce n'est pas le gouvernement qui est en place, le gouvernement de M. Bruno Tshibala, qui est issu de la dissidence du rassemblement, encore moins le CNSA qui est lui-même issu de la même dissidence. C'est les mêmes plumages. Je ne les vois pas en train d'accélérer le processus électoral. Bien au contraire, ça les arrangerait que ça traîne un tout petit peu. Ça leur permet de gagner un peu de temps, même si la paix du pays doit en souffrir.
Pourquoi vous pensez qu'ils n'ont pas l'intention d'accélérer le processus, professeur?
Oui, parce que s'ils avaient l'intention d'accélérer le processus, ils auraient recherché le plus large consensus, ils auraient consulté les sages qui avaient présidé à la signature de cet accord du 31 décembre, en l'occurrence ici, les dignitaires ecclésiastiques catholiques, pour leur demander conseil, et ils n'auraient pas accepté de violer l'esprit et la lettre de cet accord, parce que c'est pour tout cela qu'on suit depuis la nomination de Bruno Tshibala, en passant par la signature de l'accord, des accords, des arrangements particuliers. Donc on est dans les dénis, dans la violation continue. Ça fait partie de la stratégie globale de la majorité présidentielle avec certains alliés, hein, qu'on arrive à débaucher pour rallonger, pour continuer à conserver le pouvoir. Et je rappelle que c'est une stratégie qui a déjà été utilisée par les MLC et qui n'a pas donné les fruits qu'on attendait. Et on a obtenu quelques rallonges de quelques mois, de quelques années, même 7 ans. Mais au final, ça a donné quoi? Et l'on sait, les pays étaient à terre, complètement ruinés. Les chefs de l'État lui-même se retrouvaient au Maroc. Donc voyez-vous, c'est cela qu'il faut qu'on se rappelle, qu'on se souvienne, pour éviter de reprendre, de refaire les mêmes erreurs.
Puisqu'on n'aura pas les élections à la fin de cette année, cette structure n'a pas sa raison d'être.
À mon avis, la CENSA a sa raison d'être. Mais pas dans cette formule-là. Il faut revoir, il faut revisiter, il faut retourner à l'accord du 31 octobre, revisiter les arrangements particuliers qui ont violé déjà l'accord lui-même du 31 décembre. Donc, il faut revoir tout ça. Alors, pour mettre en place les institutions selon l'esprit et la lettre de cet accord du 31 décembre. Merci. Alors là, le CENSA aura sa raison d'être tout à fait, de même que le gouvernement.
Merci,
et tant qu'on n'aura pas fait ça, c'est comme s'il y a simplement une majorité élargie à une partie de dissidents de l'opposition.
Merci, professeur. Maître César Thémo, réaction par rapport aux propos du professeur.
Oui, merci, madame.
Vous allez profiter aussi pour conclure.
Oui, j'ai comme l'impression que le professeur représentant du parti de M. Félix Tshisekedi a oublié.
Il ne représente pas les partis de M. Félix Tshisekedi.
En tout cas, en entendre parler, il serait vraiment un très bon porte-parole. Mais je ne vais pas me rabaisser à cela. Je voudrais dire ceci. Il a parlé du consensus qui serait une réalité dans ce pays si jamais M. Lumbi ou M. Félix Tshisekedi étaient désignés par le président de la République. Ça, ce sont des considérations d'ordre partisane, je ne vais pas m'y atteler. Il a aussi évoqué qu'on retourne auprès des évêques qui, eux, par contre, ont rendu les tabliers. Ils ont été honnêtes. Ils ont compris que c'était très difficile de trouver un consensus avec ceux qui discutaient à la SENCO. Alors aujourd'hui, professeur d'université qu'il est, il nous renvoie encore à ceux qui ont dit au président que nous sommes fatigués. Nous ne pouvons plus atteindre le consensus.
Alors, en
c'est
conclusion,
curieux.
Maître Thémo.
Alors, en guise de conclusion, je crois que le CENSA a un dirigeant qu'il faut. Monsieur Joseph Olengankoy a une histoire dans ce pays. Il a déjà été membre de ce fameux commission de suivi après les accords de Sun City.
Vous l'avez déjà dit?
Non, pas encore.
Vous l'avez dit dans le débat tout à l'heure. Oui, allez-y quand même.
D'accord. Il a une expérience avérée. Le consensus a été trouvé. Monsieur Jolino, lui, par contre, dit que il était très difficile pour nous de démontrer qu'il y avait un consensus. Vous apprends qu'il y en avait et qu'il y en a jusqu'à aujourd'hui.
Merci.
Si deux parties
se
sont désistées, cela ne rend pas en cause la désignation de Monsieur Joseph Olengankoy, la personne qu'il faudrait.
S'il vous plaît. Monsieur Jolino, votre conclusion.
Oui, je conclue en rappelant quand même que la désignation du président par consensus était prévue dans l'accord au point à l'article 13 où il est dit que c'est le président de la République qui dans un délai de 15 jours à partir de tout ça convoque les membres afin, écoutez bien, de discuter de la désignation par consensus du président du CENSA. Donc j'étais pas dans le mauvais et surtout je dis ici, Vital Kamerhe, nous de l'UNC, nous n'étions plus partie prenante puisque dès le 3 juillet nous avons déjà dit au président de deux chambres que nous, la procédure était pas bonne et
biaisé,
que nous n'y partirons pas.
Merci, Monsieur Jolino. Merci, Monsieur Jolino. Merci. Merci beaucoup. Professeur Maïndo, désolé, il est temps. Je ne sais pas vous donner la parole. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.